Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Benjamin Sportoux, vous recevez donc ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Bonjour Gérald Darmanin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes toujours en confinement, les contrôles se poursuivent. Y a-t-il un relâchement des Français? Est-ce que vous avez constaté une augmentation des amendes que vos forces de l'ordre ont remis aux Français ces derniers temps?
Non, il n'y a pas de relâchement. Ce week-end, il y a eu 100 000 contrôles, 16 000 verbalisations. On est dans la moyenne des verbalisations, dans la moyenne des contrôles par les forces de l'ordre. Je crois que les Français, dans cette crise, ils respectent énormément les règles qu'on leur a imposées. Je constate beaucoup de respect du couvre-feu. Il peut y avoir ici ou là, évidemment, des exceptions. Mais pour passer beaucoup de nuits avec les policiers et les gendarmes, partout sur le territoire national, je constate que les Français, malgré bien sûr des réactions d'humeur et la difficulté de la situation, respectent les règles que nous imposons.
Vous allez amplifier les contrôles avec les beaux jours, parce que c'est vrai que ça peut donner envie de sortir.
En même temps, il y a l'espoir donné par le président de la République, qui évoque dans les semaines qui viennent du mieux, parce que nous sommes à 13 millions quasiment de personnes vaccinées de première dose, et on voit l'arrivée de cet espoir. Le beau temps, c'est aussi un moment pour que les gens restent dehors et se contaminent moins, par définition. Donc on va à la fois rajouter des contrôles, vous avez vu qu'on a fait des contrôles vis-à-vis de l'extérieur, notamment du Brésil. Et puis deuxièmement, je constate aussi que malgré ce respect, malgré l'envie de voir l'espoir arriver, les services de réa sont très impactés. Dans mon département, le Nord, il y a plus de gens en réanimation aujourd'hui qu'on a eu lors du premier confinement. Donc ça reste une maladie extrêmement violente, extrêmement grave.
Une affaire dans l'actualité qui a frappé les Français, c'est l'enlèvement de la petite Mia, Gérald Darmanin. Le Parisien nous apprend ce matin qu'un mandat d'arrêt international a été lancé contre un certain Rémi Daillé-Widmann, une sorte de gourou, une figure de la sphère complotiste. Il est réfugié en Malaisie. Est-ce que vous connaissiez son nom? Est-ce que vous pouvez nous confirmer ce matin ce mandat d'arrêt?
Ce que je peux vous confirmer, c'est que les gendarmes, des centaines de gendarmes, travaillent sur l'affaire de la petite Mia, qu'ils ont retrouvée saine et sauve, ce qui est un défi et ce qui était important. Ils ont trouvé les personnes responsables de ce rapt, et qu'effectivement, il y a des ramifications qui semblent à la fois survivalistes, vous savez, ces gens extrémistes qui considèrent qu'il faut se protéger contre tout et qui sont capables de tuerie. On a vu au drame d'Ambert avec les trois gendarmes qui sont décédés à Noël. Et puis des ramifications internationales.
Et on le recherche donc cet homme?
Par définition, le ministre de l'Intérieur ne donne pas des informations particulières sur les enquêtes en cours. Mais en tout cas, il y a des ramifications internationales. La Suisse, pour le retour de madame la mère et de sa fille, et puis pour d'autres personnes.
Donc on le saura peut-être dans les prochains jours. On en vient à l'actualité policière, Gérald Darmanin. Les syndicats de police appellent aujourd'hui à des rassemblements devant tous les tribunaux de France pour protester contre le verdict en appel qu'ils jugent trop clément dans l'affaire de Viry-Châtillon, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. C'était en 2016, des policiers qui avaient été brûlés dans leur voiture. Est-ce que vous soutenez cette mobilisation, Gérald Darmanin?
Moi, je ne soutiens pas les manifestations devant les institutions. Et je me fixe deux règles depuis que je suis ministre de l'Intérieur. Ne pas commenter une décision de justice, quelle qu'elle soit, et soutenir les policiers victimes. Parce que ces policiers ont été reconnus comme victimes par le tribunal. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été condamnées à des peines lourdes par la cour d'assises, je voudrais le rappeler, jusqu'à 20 ans de prison. Et ils ont été victimes d'actes absolument ignobles et odieux, d'actes de barbarie. Vouloir brûler vif des policiers dans une voiture, il n'y a pas d'autre mot que de dire que c'est de la barbarie. Et donc samedi matin, je les recevrai, ces policiers.
Policiers, samedi matin, vous les recevez.
Exactement. D'abord pour leur apporter une nouvelle fois le soutien du gouvernement, comme l'a fait le gouvernement de Bernard Cazeneuve, puisque c'était en 2016 que ces faits ignobles se sont déroulés. Et de manière générale, le soutenir, comme je le fais tous les jours, les policiers et les gendarmes. Et le président de la République, hier, a eu l'occasion, dans un grand journal, mais aussi en déplacement, de leur redire leur soutien.
Mais on va y revenir, mais les recevoir à Beauvau, est-ce que ça ne sonne pas comme une forme de désaveu de la décision des magistrats? Est-ce que vous estimez que la justice est globalement trop clémente quand il s'agit de violences aux policiers?
Vous savez, je n'oppose jamais la police et la justice, d'autant que dans cette affaire, c'est la cour d'assises, c'est-à-dire des jurys populaires qui ont donné ce verdict. Moi, je n'étais pas au procès, donc je ne commande pas ces décisions de justice. Je veux dire en revanche que la société, l'État, les politiques, le ministre de l'Intérieur doivent soutenir les policiers et les gendarmes lorsqu'ils sont, comme c'est trop souvent le cas, agressé verbalement, psychologiquement, physiquement. Je rappelle que je suis le ministre d'une administration qui a perdu 11 de ses fonctionnaires l'année dernière en service. Et qu'il y a des milliers chaque année de policiers et de gendarmes blessés. Donc on ne peut pas faire la politique du hasard de l'actualité. le jour où ça se passe pas bien pour les policiers, vraiment vouloir les soutenir, y compris médiatiquement, et le jour où ils sont en difficulté, de leur dire, mais alors, on leur doit davantage d'inspections, on doit davantage les contrôler. La police, c'est une magnifique administration,
c'est
magnifique, et c'est des gens très courageux.
Qui a aussi une forme, ressent une sorte de malaise aussi, par exemple, peut-être quand ils ont lu Emmanuel Macron dans le Figaro, qui fait un peu du en même temps, il soutient les forces de l'ordre, mais reconnaît qu'il existe des contrôles au faciès. Il le redit, il faut nommer les choses et les regarder en face. Est-ce que pour vous aussi, Gérald Darmanin, eh bien, il y a des contrôles au faciès dans notre pays?
Mais vous parliez tout à l'heure d'Emmanuel Macron. Moi, je voudrais souligner à quel point ce président de la République fait pour les forces de l'ordre. 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous n'avons pu dire partout en France qu'il y aura plus de policiers dans tous les commissariats de France, les grands comme les petits, que lorsqu'il est arrivé en responsabilité. Je prends l'exemple de la loi sécurité globale, dont on m'a dit que jamais elle ne serait adoptée. L'article 24 est toujours là, il va être promulgué par le président de la République. Les remises de peine, vous savez, quand vous êtes condamné, les remises de peine générales ont été abolies, mais une remise de peine automatique, lorsqu'on s'attaque à des policiers ou à des gendarmes. C'est le président de la République qui l'a souhaité. Vous parliez tout à l'heure des contrôles au faciès. Ouais. Le président de la République, il apporte surtout une solution devant cette question qui se pose et que vous relayez
dans
les médias. Mais oui, très largement. Les caméras piétons, à partir du 1er juillet...
Pour lutter contre ces contrôles au faciès.
Pour lutter contre tout. Pour lutter également contre ceux qui insultent les policiers et qui ensuite, sur des positions, disent « c'est pas vrai ». Et vous savez, les policiers et les gendarmes, ils sont les premiers à demander ces caméras. Aujourd'hui, ils les achètent même eux-mêmes, ce qui n'est pas légal, pour pouvoir se protéger, parce qu'ils sont la cible, souvent, des colibés, des insultes, des lazis. Et moi, je voudrais vraiment redire à quel point le président de la République, on l'a vu hier à Montpellier, et tient la barre ferme. Et il n'y a pas de monopole de l'autorité en France dans les partis politiques. Le président de la République, il est celui qui incarne aujourd'hui cette autorité.
Mais certains y ont vu un virage sécuritaire, justement dans cette interview au Figaro et ce déplacement à Montpellier. Le président de la République reconnaît lui-même qu'il y a une augmentation des violences en personne, une forte augmentation. Alors du coup, on se dit, Gérald Darmanin, est-ce que ça veut dire que pendant ces 4 ans, vous êtes bien confronté à un mur, qu'il y a eu une forme d'échec de votre part? Marine Le Pen, qui sera ce soir l'invité de Thomas Soto, dit que le pays est passé de l'insécurité à l'ensauvagement. Gérard Collomb, votre prédécesseur à Beauvau, dit les choses ne s'améliorent pas sur le terrain, même dans les quartiers de reconquête républicaine.
Alors vous lisez pas très bien, si j'ose dire, l'interview du Figaro, puisque d'abord le président commence par dire, et c'est un fait incontestable, qu'il y a une baisse généralisée des atteintes aux biens. Il y a moins de cambriolages, il y a moins de voitures volées, il y a moins de voitures brûlées. Et c'est un fait important parce qu'on le doit notamment grâce à la police et à ces moyens technologiques nouveaux que sont les caméras de vidéoprotection. Ensuite, il y a des atteintes aux personnes qui ont augmenté. Pour deux raisons. Les violences conjugales, les violences intrafamiliales, qui ont augmenté de façon extrêmement importante, du fait notamment de la libération de la parole et du Grenelle qu'a mis en place le président de la République. Tous les policiers de France, tous les gendarmes de France vous expliquent qu'il y a 5 ou il y a 10 ans, les femmes n'allaient pas porter plainte pour violences conjugales comme ils le font aujourd'hui, et tant mieux. Et il faut qu'elles continuent à le faire. Et puis, les trafics de stupéfiants qui, eux, augmentent.
Oui.
Et ces trafics de stupéfiants, d'abord, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on tienne un discours de banalisation de la drogue.
On va y venir, pardon, quand vous voyez, vous entendez Gérard Collomb qui dit les choses ne s'améliorent pas, c'est pas rien quand même.
Monsieur Sportouche, vous arrivez dans la même interview expliquer qu'on est sans doute trop lâche avec les délinquants et en même temps dire politique sécuritaire. Déjà, ce mot m'agace. Pas de politique sécuritaire, une politique de la sécurité. Parce que c'est la sécurité, c'est la liberté de chacun de nos concitoyens. Et le président de la République a dit quelque chose de très fort dans cette interview, c'est la politique sociale, la sécurité, celle qui protège ceux qui n'ont rien. Et je n'ai pas du tout l'impression que notre politique s'essouffle. Au contraire, les trafics de drogue, très importants, qui depuis très longtemps dans les quartiers existent, dont la consommation vient souvent d'ailleurs des personnes qui sont plus embourgeoisées, elles concernent tout le monde. Ces questions de trafic de drogue, et ben nous sommes aujourd'hui en train de gagner cette bataille.
Aveu d'impuissance, dit Marine Le Pen.
Non, mais Madame Le Pen, depuis que je suis petit, je regarde la télévision, Monsieur Le Pen, Madame Le Pen, Agnès Le Pen disent ça, ils disent l'immigration est partout, la délinquance est partout, ça fait 40 ans qu'ils le disent. Donc Madame Le Pen, c'est comme un disque rayé qui répète sans cesse des choses et qui par ailleurs ne vote jamais ce qu'on lui propose. Elle n'a pas voté la loi sur le séparatisme, alors qu'elle condamne tous les jours l'islamisme et que nous faisons des choses extrêmement fortes contre l'islamisme. Elle n'a pas voté la création des 10 000 policiers et des gendarmes. Elle n'a pas voté l'augmentation du budget de la justice, pour être plus ferme. Elle n'a pas voté la loi renseignement. Elle n'a pas voté la loi contre le terrorisme. Madame Le Pen, c'est le coq de Chanteclair. Elle voit le soleil se lever, elle pense que c'est elle qui le fait lever. Bon, donc, mettons Madame Le Pen de
Xavier
côté.
Xavier Bertrand, que vous connaissez, qui est toujours votre ami, enfin, je crois, qui dit que c'est une France orange mécanique.
Oui, mais d'abord, ce sont des propos de campagne. Et c'est toujours dommage de faire des propos de campagne sur des grands sujets politiques.
Mais vous, vous n'êtes pas en campagne. Est-ce que le Front de la République n'est pas en campagne en
faisant ce déplacement? Mais non, moi, monsieur, je suis à mon poste de ministre de l'Intérieur et c'est ce que demandent les Français. Tous les jours, j'essaye. conseil, parce que c'est pas évident, et les Français le savent, de protéger nos concitoyens devant des mots qui sont très anciens. Vous savez, la concentration des ghettos, c'est pas Emmanuel Macron qui est élu depuis 4 ans qui l'a fait. Bon, j'ai été maire de Tourcoing, avant qu'Emmanuel Macron soit président de la République, dans le quartier de la Bourgogne dont vous avez parlé ce matin, c'est 90% de logements sociaux. Eh ben, non, mais ça fait 20... attendez, sur ce point, voilà, regardez ça, c'est très intéressant. À Tourcoing, la ville où je suis élu, il y a 90% de logements sociaux dans un quartier de 10 000 habitants. Mmh. Ça, ça fait 40 ans que ça existe. Mmh. Ça fait 40 ans qu'il y a 70% de familles monoparentales, qu'il y a de la drogue partout et qu'il y a des gens très courageux qui essaient de s'en sortir. C'est grâce à Emmanuel Macron qu'on met 300 millions d'euros pour refaire totalement ce quartier.
Mais Gérald Darmanin,
et vous allez dire au président de la République qu'il est responsable de cette situation.
Ben attendez, je vais vous faire écouter justement, parce que tout le monde a été interpellé hier par cette femme voilée, Naïma Amadou, c'est son nom, qui a interpellé à Montpellier le président de la République. Écoutez.
Monsieur le Président, j'ai mon fils qui a 8 ans. Il m'a demandé si le prénom de Pierre existait vraiment ou c'est que dans le livre. Tellement qu'il y a un manque de mixité dans le quartier. Je lui ai dit non, mon fils Pierre existe vraiment. Il y a des gens qui s'appellent Pierre.
Le prénom de Pierre existe vraiment, dit-elle.
Voilà, oui, j'étais là. On
voit un président un peu sidéré. C'est pas son habitude, il a toujours plutôt la répartie. Vous aussi, est-ce que vous l'êtes? Est-ce que vous vous retrouvez dans une France en morceaux qu'on n'a pas réussi à réparer? Que le président n'a pas réussi à réparer ces 4 dernières années? C'était son objectif, une France apaisée.
Que le président de la République essaye de réparer, mais vous ne refaites pas le quartier de la Paillade à Montpellier ou le quartier de la Bourgogne à Tourcoing en 3 ans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La dame qui témoigne, elle témoigne pour deux raisons. Et je trouve que c'est très juste ce qu'a dit cette dame. D'abord, c'est une femme, comme vous l'avez dit, qui était voilée, qui avait le foulard. Et c'est elle qui demandait la mixité sociale. C'est elle qui remerciait les forces de police de lutter contre les stupéfiants. C'est elle qui s'attaquait aux barbus. Elle l'a dit elle-même. Vous avez passé qu'un extrait. D'abord, moi j'ai confiance dans la République lorsque Naïma, qui est née au Maroc, elle l'a dit elle-même. Mm-hmm. Voilà, qui est arrivée à l'âge de 7 ans en France, dit « Moi je veux de la mixité sociale dans mon quartier. Je veux des policiers.
Mais il n'y en a pas.
Je veux lutter contre l'islamisme. » Bien sûr, c'est pour ça que dans le quartier de la Paillade, le maire de Montpellier, je ne le suis pas, vous direz que hier, indépendamment de lutter contre les trafics de stupéfiants, nous refaisons tout dans ce quartier. Et notamment, on évite de faire 90% de logements sociaux dans un immeuble. Ça ne peut pas marcher. Et puis, deuxièmement, moi je constate que cela fait 30 ou 40 ans que cela existe. Et vous me dites, est-ce que ça, vous n'êtes pas sidéré? Mais c'est pour ça que je fais de la politique. Si je ne faisais pas de la politique, si de mon expérience de maire...
On se demande ce qui s'est passé en 4 ans. Voilà, c'est aussi ça ce que...
Mais je vais vous amener dans certains quartiers... Regardez d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé en 4 ans en 4 ans? Si vous m'avez accompagné hier avec le président de la République, comme vos collègues journalistes, vous auriez constaté que les policiers municipaux, les policiers nationaux, Naïma, témoignaient de l'hyperprésence désormais de la police et de l'éradication des trafics de drogue dans le quartier.
Trafic de drogue, justement. Alors ça, c'est la mère des batailles, dit le président de la République.
Mais qu'est-ce qui s'est passé en 4 ans?
Mais tout d'un soudainement,
il s'est passé, monsieur Sportouche,
tout l'inverse.
Que nous reprenons le terrain. Nous reprenons le terrain contre le trafic de drogue.
Oui.
Et notamment dans ce quartier. Il y a encore 2 ans, il aurait été impossible à un président de la République, me semble-t-il, de se rendre sur place et discuter avec les habitants. Ces habitants, ils ont été parfois séquestrés par les dealers. Et par le travail de la police, de la mairie de Montpellier, de la justice, on a réussi à mettre ces personnes derrière les verrous.
Mais c'est sur le cannabis, notamment, que vous voulez lutter contre le cannabis. Mais est-ce que c'est vous qui avez changé d'avis, le président de la République? En 2016, il disait qu'il n'était pas contre la légalisation du cannabis. C'était alors le candidat Macron. Est-ce que tout d'un coup, à l'approche de la campagne présidentielle, le ministre Gérald Darmanin a fait changer d'avis, le président Macron, et que tout d'un coup, eh bien, il faut une lutte acharnée contre le cannabis? 17 millions de Français.
Écoutez, moi, j'ai échangé avec le président de la République depuis que j'ai été ministre des Comptes publics, donc en charge aussi des douanes, depuis 4 ans. Je l'ai toujours vu très opposé à la drogue. Il a toujours validé toutes les oppositions à la drogue. Et puis, vous savez, cette histoire de cannabis, moi, je trouve que le discours
un peu bobo,
un peu bourgeois de consommation récréative que souvent les beaux quartiers ont, alors ce sont les classes politiques, dirigeantes, parfois médiatiques, qui consomment des stupéfiants, disent bon, finalement c'est pas si grave, un joint de temps en temps, mais c'est extrêmement grave.
C'est ce que dit Jean-Baptiste Mourouf, vous savez, un député de votre majorité, qui dit prohibition, c'est un échec, il faut passer à autre chose.
C'est ce que dit Damien Abad aussi à droite, c'est ce que dit Robin Reda à droite, donc je pense malheureusement qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent sur cette question, ça n'empêche pas l'amitié qu'on peut porter pour eux, mais c'est un discours de déresponsabilité. La mère de famille qui élève seule ses 2 gamins dans le quartier de la Paillade ou le quartier de la Bourgogne à Tourcoing, et qui a 2 gamins de 14 et 15 ans, qui vont qu'à un cas au collège et au lycée, et qui fument du chichon. Alors ça peut être sympathique quand on est dans le 16e arrondissement de fumer du chichon. Enfin, la mère de famille qui est toute seule et qu'elle explique à ses enfants que la drogue, c'est de la merde, qu'en l'occurrence, il y aura de la déscolarisation, qu'ils vont devoir faire des petits larcins pour pouvoir se payer leur dose parce que ça coûte très cher, sa dose d'abord de cannabis dont la THC est très importante. Même le journal Le Monde l'a évoqué, on a fait un article complet. Et désormais, la cocaïne qui est partout sur le territoire national, eh ben c'est en santé publique, en santé psychologique et de manière générale dans la vie sociale, c'est affreux.
Vous savez
c'est
combien de Français
attendez,
déjà...
attendez, je termine. Et moi,
17
je sais pas...
millions de Français ont déjà fumé un joint. Est-ce que... et une de vos députées dit qu'il faudrait 330 millions d'interpellations si on veut s'en prendre à tous les consommateurs. Voilà ce que dit Caroline Janvier. Donc elle dit que c'est un peu de l'esbrouf, on ne pourra pas faire cette
politique.
Moi, j'ai
politique. Mes convictions politiques, ce n'est pas parce que c'est difficile et ce n'est pas parce que depuis 30 ans, 40 ans, on a laissé la drogue prospérer qu'il faut aujourd'hui baisser les bras. Deuxièmement, je dis à tous les pères et à les mères de famille qui se battent, tous les éducateurs qui se battent, tous les médecins qui se battent pour qu'il n'y ait plus de consommation de cannabis, chez les jeunes notamment, qui doivent continuer à se battre et qu'on sera derrière eux et que je ne serai pas le ministre qui les grévisera.
Vous n'avez jamais fumé de joint,
non, Gérald Darmanin. Je reconnais plein qui l'ont fait et qui le regrettent.
Oui. Voilà. Même dans votre entourage, des amis qui l'ont fait.
Mais il y en a sans doute et je condamne cette consommation.
Mais alors vous allez faire quoi? Augmenter les amendes par exemple pour consommation?
Mais attendez, monsieur Sportou, c'est trop important comme discussion. Tous ces gamins qui sont déscolarisés, sous prétexte qu'on aimerait bien. Pour une raison sans doute de politique, parce que ça fait plus sympa de dépénaliser, parce que sans doute c'est très difficile de lutter contre la drogue, on devrait être lâche politiquement. La dépénalisation de le cannabis, c'est la fin d'une certaine autorité. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ces trafiquants? C'est dans le quartier de la Paillade, c'est 20 000 euros en argent liquide, 30 000 euros parfois, à Marseille c'est 100 000 euros des points de deal. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces trafiquants? Ils vont ouvrir une petite échoppe en payant leurs URSSAF, en payant les impôts, ils vont tenir des horaires à faire l'inspection du travail quand ils vont vendre demain du cannabis.
Vous savez qu'on peut acheter des graines de cannabis
sans
parfait, pas les calculs.
Mais ce n'est pas sérieux.
Est-ce que vous allez interdire la vente des graines?
Ce n'est pas sérieux. La lutte contre la drogue, et la drogue c'est le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, est une lutte que doivent faire tous les républicains.
Et vous allez interdire la vente des graines de cannabis?
J'interdirai, mais écoutez, monsieur Sportou, je suis contre la drogue en général. Mais je voudrais dire aussi que dans ce débat, la droite n'est pas claire. Et je constate qu'il y a beaucoup de dirigeants de droite désormais qui sont lâches sur cette question. Donc posez-leur la même question, la réponse du gouvernement d'Emmanuel Macron est claire. On lutte contre la drogue avec la première des forces, parce que c'est la première des batailles. Mais posez la question aux candidats de droite. Je trouve qu'ils sont désormais un petit peu loin de ce que souhaite désormais la voix populaire.
La campagne est donc vraiment lancée.